Maintenant, on va parler des fruits. Alors, les fruits, il y en a 9. Vous les connaissez maintenant. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je pense que, comme je le disais la semaine dernière, je pense que un enfant de Dieu doit développer le fruit de l'esprit. Il doit les rechercher, la Bible nous dit qu'il doit les rechercher. C'est un choix de vie, de porter du fruit de l'esprit. Et comme nous l'avons vu aussi, c'est une préoccupation de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque dans les évangiles, nous voyons que le Seigneur Jésus a maintes fois partagé le fait du fruit de l'esprit. Et il nous a montré dans sa parole plusieurs textes qui nous l'ont rappelé constamment. Donc, est-ce qu'un enfant de Dieu doit porter des fruits de l'esprit? Je pense que vous avez compris que oui. Et que si vous partez dans votre esprit ce matin en disant « Bon, je ne dois pas porter du fruit de l'esprit », à mon avis, c'est une grossière erreur que vous faites dans votre cervelle. Donc, changez cela assez rapidement de votre tête, puisque l'enfant de Dieu doit réellement porter les fruits de l'esprit. On doit faire la différence entre un don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit, c'est dans le but de servir au sein de l'Église. Les fruits de l'esprit, c'est que Dieu veut changer votre vie. Il veut la transformer. Il veut complètement bouleverser votre vie. Puisque quand vous regardez ces 9 fruits de l'esprit, vous allez sûrement dire, ah non, celui-là, je suis au top. Celui-là, la joie, il n'y a pas de problème. Tous les matins, quand je me lève, quand je vais dans ma douche, je chante Alléluia, gloire à Dieu. Celui-là, il n'y a pas besoin. J'en ai de trop. Je peux même le partager avec d'autres personnes. Mais il faut confesser que quand on arrive, par exemple, à la maîtrise de soi, celui-là, il faut bien avouer que je ne suis pas très au top avec ça. Je ne suis pas au summum de mon expertise d'avoir compris que ce fruit-là doit être développé aussi dans mon existence. Alors, moi, la question que je me suis posée durant cette semaine, pour aborder avec vous les 9 fruits de l'esprit, je vous rassure, on ne va pas tous les faire aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer au fur et à mesure. J'ai pris constatation que je vais essayer d'aborder tous les fruits de l'esprit avant que je parte en vacances. Comme ça, pendant le mois où nous ne serons pas ici en France, nous serons aux États-Unis, donc vous le saurez maintenant, eh bien vous pourrez développer pendant un mois ces fruits de l'esprit. D'accord? Donc je vais essayer de vous encourager pendant 2 mois avant de partir aux États-Unis. Et que pendant un mois, vous allez ensemble développer ces fruits de l'esprit avec vous. Si vous avez le projet de me téléphoner aux États-Unis, pas de problème. Sachez qu'il y a un décalage entre la France et les États-Unis. Donc nous serons à 6 heures de décalage pendant une quinzaine, et nous serons à 8 heures de décalage durant la deuxième quinzaine. Donc, ne me réveillez pas la nuit, parce que je ne vous répondrai pas si vous appelez à 2 heures du matin. Je dormirai sûrement comme un bon Américain qui dort quand il doit dormir à un moment donné. Je ferme la parenthèse. Je voudrais aborder avec vous le premier fruit de l'esprit, l'amour. Alors, cette affaire d'amour nous est vraiment constamment rappelée au sein de nos églises, et nous avons sûrement entendu plusieurs fois des prédications sur l'amour de Dieu. Mais au fond, est-ce que nous le comprenons vraiment, ce mot « amour » ? Parce que le monde véhicule toutes sortes de choses, et bien souvent, nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans ce monde, et le monde, parfois, nous influence. Alors je me dis, est-ce que nous comprenons vraiment cet aspect de l'amour de Dieu dans notre vie, ou de manifester ce fruit de l'esprit du mot amour dans notre vie. Voici la définition du Larousse, du mot amour. C'est un lien qui est fort, un sentiment intense, un attachement qui englobe la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Voilà la définition que vous trouvez dans le Larousse ou d'autres dictionnaires. Je ne suis pas là pour faire de la publicité ni pour l'un, ni pour le petit Robert, ni pour le Larousse, mais enfin, il fallait que je cite à un moment donné une définition. De nos jours, on abuse de ce mot. Et quand on regarde dans les films, dans les pièces de théâtre, dans les livres, dans Internet, on voit que ce mot est vraiment dans le sens, vraiment malheureusement abusé dans le vrai sens du terme. On utilise souvent ce mot pour des sentiments d'intimité ou de passion sexuelle ou d'un engagement avec du conditionnel. Je t'aimerai si tu réponds à mes attentes. Ça, c'est de la condition. Je t'aime à condition que. Et c'est tout à fait ce que nous voyons aujourd'hui dans notre humanité. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme cela. Et l'amour, le fruit de l'esprit que le Seigneur veut que nous mettions en pratique pour transformer notre vie, n'a pas du tout de condition. Et ne doit pas avoir de condition entre nous. Il doit y avoir un amour vraiment que le Seigneur veut que nous puissions le partager et on va le regarder ensemble si vous voulez bien. Le pasteur baptiste Martin Luther King a dit un jour, l'obscurité ne peut pas changer l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas changer la haine, seul l'amour le peut. Notre monde est dans l'obscurité, dans la haine. Il ne peut pas changer le monde. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut penser qu'il peut agir dans tous les domaines. Il ne le changera pas parce qu'il est dans l'obscurité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans l'obscurité aujourd'hui. Notre Seigneur nous a changés quand on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Donc notre responsabilité, c'est de se laisser transformer par le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, le mot amour a 4 définitions. Il n'y en avait pas assez de une, il en fallait 4. Alors je vais vous donner les 4 définitions, les 4 mots que vous trouvez dans la Bible. Tout d'abord, le premier mot que nous trouvons, c'est le mot eros en grec, qui signifie un amour physique passionné entre deux êtres. Ce mot est dans la Bible, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Vous avez le deuxième mot qui se trouve dans la Bible aussi, c'est le mot philadelphia. C'est un sentiment d'affection qui est lié à un ami intime. Donc vous avez ce mot dans le sens de la philosophie, donc deux amis, deux personnes qui s'apprécient, eh bien, ce mot, ça a l'idée d'un sentiment d'affection. Vous avez un troisième mot dans la Bible pour définir le mot, donc, amour, c'est storgé. C'est l'affection qui est liée les membres d'une même famille, d'un parent ou d'un enfant. Donc, quand on parle de famille dans la Bible, eh bien, nous avons ce mot qui est là pour définir exactement ce mot. Et puis le quatrième et le dernier, c'est le mot agapé qui est le plus cité dans la parole de Dieu. Et nous allons le voir un petit peu plus loin en lisant 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 13, où on voit ce mot un peu particulier là dans ce chapitre qui nous rappelle que eh bien, le mot agapé a pour définition une affection invisible qui touche autant la volonté que le sentiment. Peu importe le mal que les gens vont nous faire, il ne fait jamais chercher autre chose que le bien-être des autres personnes. Voilà un petit peu l'idée du mot agapé dans la parole de Dieu. C'est un sentiment que le Seigneur a mis en valeur quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est ce mot-là qui caractérise l'amour de Dieu vis-à-vis de son Fils. Vous connaissez Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce mot-là qui est indiqué pour expliquer l'amour de Dieu vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de notre humanité. C'est un amour qui est aussi entre les humains. Nous allons voir cela un petit peu plus tard. Alors, la vraie définition du mot amour, vous pensez bien que je n'allais pas passer à côté de 1 Corinthiens chapitre 13. Et si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, eh bien c'est l'occasion aujourd'hui de le réentendre. Si le chapitre 13 de 1 Corinthiens vous ne l'avez pas lu, moi je voudrais le lire pour vous ce matin. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai tous les dons de prophétie, la science et tous les prophètes et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. L'amour, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais comme ce qui sera parfait sera venu et ce qui est partiel sera aboli, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Méditez-le durant cette semaine, ce chapitre. Réfléchissez-y durant cette semaine. Il est bon parfois de réfléchir sur certains passages de la parole de Dieu. Le texte mentionne quelques autres fruits de l'esprit, la patience, la bonté. Mais vous avez bien vu que l'amour est prioritaire et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler. John Wesley a dit un jour, l'amour est le plus excellent don de Dieu. J'avoue franchement que l'amour comme cela, c'est impossible de le vivre dans le quotidien, n'est-ce pas? C'est impossible de le vivre au quotidien. Je voudrais en avoir pour preuve. J'avais quelques élastiques à la maison, donc je les ai prises. Vous savez, notre amour entre nous, parfois, il est comme une élastique. J'espère que vous avez compris cet aspect de l'élastique. Il est selon, parfois, les circonstances. Il est selon l'humeur du moment. Il est selon, je dirais, ce que nous vivons. C'est-à-dire, si vous avez passé une bonne nuit, normalement, le matin, notre amour va être énorme. Il m'arrive à la maison de chanter un cantique. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Mais elle est là. Je le chante de temps en temps. Mais je dois confesser que je ne le chante pas 365 jours de l'année. Des fois, je rigole avec elle, avec ce chant, avec ce cantique. Elle commence à me connaître. Mais Voyez-vous, je dois avouer que c'est selon l'humeur et les circonstances de ma vie, tous les jours, je ne chante pas ce cantique. Des fois, notre amour peut être très grand. Et des fois, notre amour peut être très petit, selon les circonstances que nous sommes en train de vivre. Mais est-ce que vous pensez que Dieu a décidé un jour d'être grand et un autre jour petit? Avec nous, pas du tout. Et je voudrais vous en donner la preuve que notre amour peut être un élastique. Je ne sais pas si vous avez des voisins de palier ou de quartier, mais vous savez, il y a des fois des gens qui viennent taper à la porte. Je voudrais faire un gâteau. Est-ce que tu peux me dépanner d'un kilo de farine? Alors, comme vous avez de la bonté, comme vous avez 10 kilos à la maison qui ne servent strictement à rien, parce que vous n'avez pas pris le temps de faire un gâteau pour votre femme ou pour votre mari, donc vous dire, ben, elle m'a demandé un kilo, donc je vais dans le placard, je vais prendre ce kilo et je vais lui donner. Bravo. Vous avez vraiment manifesté votre amour pour cette voisine ou pour ce voisin qui est venu vous demander donc un kilo de farine. La semaine d'après, la même personne vient retoquer à la porte. Et là, j'avoue que je dois prendre l'illustration de l'article. Là, ça augmente un petit peu. Et cette personne va vous dire gentiment, j'ai un sérieux problème avec mon compte en banque. Il est déficitaire. Serait-il possible, s'il te plaît, avec une certaine insistance, de m'aider de 500 euros? Alors, comme vous avez reçu récemment une prime qui ne vous sert à rien, elle est sur un compte, vous êtes dans votre esprit, vous dites, bon, elle ne sert à rien, je peux aider cette personne qui m'a demandé, donc, gentiment, ces 500 euros. Donc, vous allez les prendre, vous allez aller chez votre banquier, vous allez les retirer, vous allez les prendre et vous allez les donner. Moi, je dis encore bravo. Moi, je vous le dis, bravo. Si vous faites ce genre de choses, bravo. C'est pour vous montrer que selon les circonstances de notre vie, notre amour peut être réellement une élastique. La même personne, toujours la même personne que vous aimez, hein, qui habite dans le même palier ou dans le même quartier, qui vous aime beaucoup. Parce qu'elle a compris que chez eux, j'aurai tout ce que je voudrais. Donc je peux aller demander ce que je veux. La même personne vient d'avoir un accident de voiture. L'hôpital vous appelle en urgence. Elle est blessée. Elle a besoin d'un organe. Et vous êtes compatibles, vous avez le même sang, vous avez le même, je dirais, la même structure, il n'y a pas de problème, vous pouvez donner votre organe. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous êtes prêt ce matin à donner une partie de votre corps? Je suis persuadé que le portefeuille, on peut vous en prendre un peu. Je suis persuadé que le kilo de farine, on peut vous en prendre de temps en temps. Mais est-ce que vous êtes prêt ce matin à donner une partie de votre corps? Je pense que ça mérite notre réflexion. Moi, si mon voisin ou ma voisine, même si je suis compatible avec elle, le jour où elle va me donner cette annonce, je vais lui dire, attends, je prends une chaise, je m'assois, et je vais réfléchir à ce que tu vas me dire. Peut-être que je vais prendre quelques jours, n'est-ce pas, de réflexion. Je vais peut-être prendre, je dirais même plusieurs semaines, après tout, elle a le temps de se faire opérer. Voyez-vous, bien souvent, on a cet aspect dans notre vie à penser que notre amour entre nous doit être comme une élastique, selon les circonstances de la vie. Si tout va bien, alors là, mon amour doit être le plus haut possible, et si tout va mal, alors là, c'est la catastrophe. Mais nous vivons exactement la même chose, n'est-ce pas, dans le foyer parfois, entre nos frères, nos sœurs, entre nos amis, nos parents, entre époux, épouses. Parfois, nous sommes au summum des summums dans l'amour. Et parfois, selon les circonstances, eh bien, nous réduisons notre amour vis-à-vis des personnes qui sont parfois les plus proches. Alors, je voudrais vous donner quelques principes ce matin. Je vous ai montré l'importance de porter du fruit, mais je voudrais vous montrer quelques principes ce matin importants aussi du fruit de l'esprit de l'amour, en tout cas le premier. Le premier principe, le premier fruit de l'esprit, implique un premier principe. L'amour est le fondement pour cultiver les autres fruits de l'esprit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cultiver la joie si d'abord vous ne cultivez pas l'amour. Vous ne pouvez pas cultiver la maîtrise de soi si vous ne cultivez pas d'abord l'amour. Je viens de lire avec vous donc le passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Je dirais que c'est le summum que le Seigneur nous parle ici. Et je pense que quand la Bible nous dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que réellement l'amour supporte tout? Est-ce que réellement notre amour vis-à-vis de nous, entre nous, est-ce que c'est réel? Est-ce que ce que vous vivez à la maison, vous le vivez ici dans l'église? Est-ce que si vous êtes levé ce matin en disant « Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. » Et après, quand vous chantez « Ah, qu'il est beau de voir des frères louer le Seigneur ensemble. » Il y a des fois, ça va. Il y a des fois, ça va pas. Il y a des fois... Je préfère rester dans mon lit. Il y a des fois, je préfère rester ailleurs que chez certains frères et sœurs. Je crois que vraiment, ça doit pousser, nous devons pousser vraiment à réflexion dans ce domaine. Mon épouse et moi, nous avons fait la construction d'une maison il y a quelques années en arrière. On en a terminé. J'ai terminé avec ça. Vraiment, il y a plus de 15 ans, j'ai construit vraiment... Dieu merci, c'est terminé. En fait, je n'ai pas tout terminé encore, mais on a terminé. Donc, je vais prier pour toi, mon frère. Vraiment, vraiment, pour terminer avec cette affaire. Mais, bien souvent, dans notre vie personnelle, nous mettons la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Quand on a pu construire cette maison, nous avons vu de magnifiques Turcs maçons qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, voilà, on va construire cette maison avec vous. Vous allez pouvoir venir, et nous avons à la maison un magnifique catalogue, où au fur et à mesure que nous avons vu la maison évoluer, nous l'avons pris en photo. Alors, je peux vous dire que le toit n'a pas été fait avant les fondations. J'ai une preuve à la maison, donc comme j'ai fait l'évolution, j'ai bien vu que les charpentiers ne sont pas venus à un moment donné dire, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, on va poser le toit. Non, mais attendez, les fondations ne sont pas faites encore. Donc dans ma tête, c'était logique que d'abord les fondations, ensuite le toit. Eh bien, bien souvent nous devons comprendre que les autres fruits de l'esprit ne peuvent pas être cultivés dans notre vie sans l'amour. Et je pense que c'est important que nous puissions comprendre cela. Réfléchissez un petit peu. Je voulais rappeler ce matin avant... d'introduire le culte ce matin. Il n'y a que l'amour de Dieu qui nous a unis ce matin. Vous n'êtes pas venu pour le pasteur, j'en suis persuadé. Ma femme est venue pour moi. Oui, ma femme, parce qu'elle m'aime. Elle est venue pour moi, parce qu'elle m'aime. Elle sait que si, il faut qu'elle vienne, parce que on s'aime, on sert le Seigneur ici. Elle est venue, mais vous n'êtes pas venu pour moi. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Si vous venez, frères et sœurs, vous venez pour le Seigneur. Vous venez pas pour moi. Enfin, vous savez, on le chante, je suis qu'un simple voyageur. Peut-être que je resterai aux États-Unis, je vous rassure, je reviens.
J'ai fait un aller-retour avec mon billet.
Non, non, mais je vous le dis franchement, je vous le dis franchement, je suis un simple voyageur ici, pas sur cette terre. Est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous vivons cela dans notre quotidien? Dieu peut, du jour au lendemain, tout arrêter s'il a envie de tout arrêter. Oui, notre amour doit se manifester et nous ne devons pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous devons cultiver cet amour dans notre foyer, dans notre vie de tous les jours. Nous devons le mettre en la première place. Alors maintenant, j'ai plus d'excuses. Quand je me lèverai maintenant, j'irai voir ma femme et je dirai « Je t'aime, ma chérie. Je vais aller te chercher un bouquet de fleurs ou un croissant ou je ne sais pas quoi, ce que je peux faire, mais je vais essayer d'éviter de manifester de la joie parce que c'est d'abord l'amour qui doit être mis à la première place. Mais je la rassure, je continuerai à lui chanter de temps en temps. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Pour qu'elle me connaisse, je le chante de temps en temps. Deuxième principe important de ce fruit de l'amour, c'est aimer est un commandement de Dieu. Étonnant, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a donné des tas de choses pour que nous puissions les mettre en pratique. Mais ce commandement-là, des fois, je me dis, j'ai beaucoup aimé il y a quelques semaines quand on a fait avec Marc comment on va reconnaître un chrétien. Et certains pensent que, ben oui, il suffit d'aller dans une église, il y a une croix, et là je vais voir, il y aura plein de chrétiennes là-dedans. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits où il y a des croix. Il n'y a pas du tout de chrétien à l'intérieur. Et bien souvent, c'est cet aspect que le Seigneur nous montre dans le fait de l'acte et le sentiment que nous avons les uns avec les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voyez-vous, c'est pour cela que je vous disais ce matin, juste avant de lire ce verset, que vous n'êtes pas venus parce que vous m'aimez moi personnellement. Vous êtes venu parce que vous aimez le Seigneur et que le Seigneur veut être votre priorité, donc vous l'avez mis en priorité ce matin. Et c'est pour cela que vous êtes venu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh oui, le Seigneur a écrit aussi ces quelques mots dans la Bible. Notre prochain doit être aimé comme Dieu. Vous avez pour responsabilité d'aimer la personne que le Seigneur a mise à côté de vous comme Dieu. Vous aimez Dieu? Vous avez une passion pour Dieu? Vous avez tout votre cœur pour Dieu? Ben la personne que le Seigneur a mise à côté de vous, vous devez l'aimer autant que ce que vous aimez Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est une relation que nous avons entre Dieu. Nous aimons Dieu, donc nous venons ici parce que nous aimons Dieu. Notre relation avec les autres, tu aimeras le prochain comme toi-même. Et ça, c'est notre relation avec nous-mêmes. L'amour est le signe distinctif entre les chrétiens. Si vous voulez reconnaître un chrétien, c'est pas avec une croix sur portée. Ce qu'on faisait bien souvent, vous savez, dans le sud de la France, on avait souvent, ben, je ne vais pas le montrer ici, mais on avait la chemise ouverte, avec une grosse chaîne, mon frère avait ça, et il y a toujours ça. Donc si vous allez dans le sud de la France, moi je me suis couvert, j'ai mis la cravate ce matin parce que j'ai eu froid, mais dans le sud de la France, les jeunes portent, vous savez, des grosses chaînes en or, avec souvent une croix, qui n'a aucune signification pour eux. Moi je me dis, s'ils ont une croix, ils doivent être chrétiens. Oui, oui, mon œil. Dans la journée, après, ils vous cambriolent. Dans la journée, personne ne vous cambriole. Donc je me dis, pourquoi ils portent une croix sur le cou, hein? Ça sert strictement à rien. Et bien souvent, on pense que c'est la même chose. Hein? On doit avoir une marque. La Bible nous dit, c'est pas la marque. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, si vous manifestez de l'amour ici, les gens vont dire, ben, il y a de l'amour ici. Il y a vraiment des chrétiens. Il y a l'Esprit de Dieu qui se manifeste ici. Et ça, c'est plus important qu'un bijou. Ou une marque de distinction. Troisième et quatrième principe, c'est pour aimer, Paul a manifesté quatre dimensions. Et je voudrais vous les donner, ces quatre dimensions, ce matin. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3, et les versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de là, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul parle de quatre dimensions. On va les regarder, si vous voulez bien, ensemble, ces quatre dimensions. Tout d'abord, il parle d'une force. Dieu a mis une force en vous. Vous ne pouvez pas aimer l'autre sans une force que vous avez en vous. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. On nous dit souvent, c'est à la conversion, vous savez, qu'on change, qu'on nous dit qu'on a changé parce que le Seigneur, on voit bien la grâce de Dieu, que Dieu a agi dans notre vie. Mais cette affaire de conversion, cet aspect de conversion, est-ce que vous pensez que après la conversion, on doit rouler, je dirais, tranquillement, à la limitation de vitesse de la vie? Est-ce que vous ne pensez pas que tous les jours dans notre vie, nous n'avons pas besoin d'être vraiment transformés par le Seigneur Jésus-Christ? Et nous avons besoin d'être aimés au-delà de nos limites. Nous avons besoin de comprendre cela dans notre vie. C'est-à-dire que Jésus a vraiment donné tout ce que nous avions besoin pour que nous puissions aimer l'autre de tout notre cœur. Puisque Paul dit à ses Éphésiens, je demande à Dieu de vous fortifier. Alors maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Quand un frère ou une sœur vient vous voir, vous dites, je suis dans le découragement, je suis découragé, je passe par un moment difficile. Je demande à Dieu de te fortifier dans la situation. Je demande à Dieu de te donner l'énergie, la force que tu as besoin. Moi, je ne peux pas passer cette situation, cette épreuve, mais je demande à Dieu de te fortifier. Est-ce que nous disons ce genre de choses à un frère ou une sœur qui est en face de nous? Bon, laisse-moi tranquille, hein. Tu m'as là assez dit avec ta situation, hein. Vous en avez assez entendu, hein. On se reverra demain, si tu veux bien. Non, nous avons besoin de nous fortifier. Le Seigneur nous a donné, c'était la prière de l'apôtre Paul, et le Seigneur nous donne la force, n'est-ce pas, avec l'action du Saint-Esprit. Je ne chante pas tous les matins, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Il y a des fois, ma femme meurt.
Enfin, je ne vais pas dévoiler. On va rester là. Je vais être sage. Et nous avons tout, n'est-ce pas, pour être fortifiés par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a donné la force d'agir vraiment dans cet aspect de l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Deuxième prière de l'apôtre Paul, c'est la motivation. Solidement fondée en lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour. Verset 17. Si nous voulons avoir de la stabilité dans notre vie, nous devons nous plonger dans l'amour du Christ. Nous devons être fondés et enracinés en Christ. C'est le défi que je vous ai lancé, être fondé et enraciné en Christ durant l'année 2017. Mais c'est quelque part le leitmotiv que je voudrais vous encourager à faire durant ces 365 jours qui vont être devant vous, de vraiment d'être fondé et enraciné en Christ, d'être plongé dans l'amour du Christ. Cela vous donnera une motivation dans votre vie. Ça vous aidera dans votre quotidien avec la personne qui a mis le plus cher auprès de vous. Mais cela vous aidera aussi dans vos relations avec vos enfants, votre relation avec les parents parfois. Il y a des moments, vous savez, on ne peut pas tout dire parfois, mais il y a des tensions parfois dans la vie de tous les jours, avec la famille, avec nos enfants, avec les parents, avec les frères et sœurs parfois. Il y a des moments de tension, n'est-ce pas? Et je me dis, sans la motivation que le Seigneur a mis dans notre cœur de continuer, je crois que bien souvent on abandonnerait. Et je me dis, merci Seigneur qui nous enracine et que nous devons prendre vraiment au sérieux d'être enracinés et fondés en Christ. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean chapitre 4, verset 11. Troisième, c'est la compréhension. Que nous puissions connaître même cet amour. Alors nous avons vu, là, il y a quatre dimensions. La longueur, la profondeur, la hauteur et la largeur. Quatre dimensions que le Seigneur place devant nous. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un commerce et que vous aviez envie d'acheter une table. Vous avez jamais dit à un vendeur, je voudrais une table qui fait 3 mètres cubes. Non, en principe, vous vous dites, voilà, j'ai besoin d'une table qui fait 1,50 m, 80 de largeur, ça ira très bien dans ma salle à manger. Mais vous n'avez jamais dit à ce vendeur, je voudrais une table qui fait 3 mètres cubes. Parce que cette notion-là, nous ne la connaissons pas. Le mètre cube, la profondeur, il n'est pas dans notre conception. Quand on achète une table, on achète une table pour sa hauteur, pour sa largeur et pour sa longueur. Jamais pour le contenu qui est en dessous. Dieu a rajouté un quatrième, sa profondeur. Alors, je ne sais pas si parfois on comprend cet aspect de profondeur, mais c'est le miracle que Christ a fait dans notre vie. Et je pense que quand on comprend cet aspect de l'amour de Dieu dans sa profondeur, on comprend vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a sortis de l'enfer. Du péché que nous étions, pécheurs que nous étions, il nous a enlevés de l'enfer. C'est pas merveilleux ça? Ça me mérite en tout cas mon attention pour réfléchir de temps en temps à la profondeur que Dieu a pris le temps pour nous. Nous avons cette conception très limitée. Dieu en a rajouté une quatrième. Mais il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Et la dernière, c'est une expérience remplie, pleine de puissance, de la plénitude de Dieu. Alors, bien sûr que tous ces
sous toutes ces choses qui ont été citées, dites, nous devons les cultiver dans notre quotidien. Je dois l'avouer, je dois le confesser, c'est pas toujours facile de mettre l'amour à la première place dans notre existence. C'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous demande de le faire et de le mettre à la première place. Parce que seul l'Esprit de Dieu va vous aider dans votre quotidien à le mettre à la première place dans votre vie. La conclusion pour ce matin. Maintenant, je vais vous pousser à la réflexion. Vous avez vu un petit peu tout l'aspect de l'amour qui a été manifesté ce matin. À vous de mettre en pratique. Cet après-midi, peut-être demain, dans votre lieu de travail, parmi les collègues, dimanche prochain, dans une église, là où c'est que le Seigneur vous a placé, eh bien, de manifester cet amour pour les autres. Durant cette semaine, peut-être d'envoyer, c'est à la mode, des SMS, de dire simplement je t'encourage par un petit verset de la Bible, mais pas toujours aux mêmes personnes. Vous savez, ici, on est à peu près, quand on me pose la question, je donnais à peu près 70 avec les enfants. C'est le nombre que nous sommes. Tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais c'est le nombre à peu près que nous sommes. Et n'envoyez pas toujours des SMS aux mêmes personnes. Il y a 70 personnes ici avec les enfants. Il y a peut-être un enfant qui a besoin peut-être de recevoir un SMS. Ils ont leur téléphone portable aujourd'hui. Vous pouvez les encourager aussi, parfois un de vos enfants. Alors je voudrais terminer par un chant, et je voudrais que vous puissiez le méditer durant la semaine. C'est le chant 64, c'est le dernier, s'il te plaît. C'est le dernier 63, excuse-moi, l'amour de Dieu. Je voudrais lire ce chant. On va juste le méditer quelques instants, le temps que je lise ce chant. Et ensuite, si vous voulez, on peut le finir par ce chant ce matin en le chantant. Mais je voudrais juste vous faire comprendre que c'est très important de ce mot. S'il a été mis à la première place dans les fruits de l'esprit, c'est pas pour rien. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus et nous pardonne aux prés profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ses divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Que vous puissiez méditer durant cette semaine ce chant. Pourquoi pas le chanter chez vous? Il est connu, il est très connu. Vous pouvez le télécharger sur Internet si vous voulez. Il est très connu ce chant. Que vous puissiez tout simplement le mettre en pratique durant la semaine. On va se lever et on va chanter ce chant ensemble pour conclure ce matin le culte. Nous donnons
Shalom.